Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Et dans cette fin de semaine, nous allons terminer ensemble ce balayage autour de la commune de Paris avec ce dernier extrait de l'œuvre de Jules Vallès, L'insurgé. Où sont les autres camarades? Qui occupe les postes importants? Pas un homme connu. C'est celui-ci ou celui-là pris au hasard dans le comité central. On n'a pas eu le temps de choisir dans le branle-bas du combat. Il ne s'agit que de planter le drapeau prolétarien là où flottait le drapeau bourgeois. Le premier moussaillon venu peut faire cette besogne tout aussi bien que le capitaine. Qui est à l'intérieur, savez-vous?
Bon, je n'en sais fichtre rien, dit un des chefs. Allez donc voir par là, 20 traces. Restez-y, s'il n'y a personne, ou aidez les camarades, s'ils sont dans le pétrin.
Place Beauvau, l'intérieur, n'est-ce pas? Je n'en suis pas sûr. Il me semble pourtant que c'est là qu'on est allé au lendemain du 4 septembre voir Lanrier à propos de je ne sais qui, arrêté par la Nouvelle République pour je ne sais quoi. C'est un maître de lavoir qui a la signature à l'intérieur. Grelier, un brave garçon que j'ai connu sur les hauteurs de Belleville et qui s'improvisa mon adjoint dans la nuit du 31 octobre à la mairie de la Villette. Il signe des ordres pavés de barbarisme, mais pavés aussi d'intentions révolutionnaires. Et il a organisé, depuis qu'il est là, une insurrection terrible contre la grammaire. Son style, ses redoublements de consonnes, son mépris des participes et de leur concubinage, ses coups de plume dans la queue des pluriels lui ont valu un régiment et une pièce de canon. Tous les employés qui n'ont pas filé sur Versailles, depuis le chef de bureau en redingote râpée jusqu'au garçon en livrée cossue, ont peur de cet homme qui fusille ainsi l'orthographe, qui colle Noël et Chapsal au mur. Il a peut-être, qui sait, le même mépris de la vie humaine. Il m'embrasse quand j'arrive. « Heureusement, mon vieux, que Vaillant va venir, me dit-il. J'en ai mon sac, que c'est embêtant d'être ministre. Tu ne l'es nulle part ?
Ah, mais non !»
J'allais partir quand, entre les battants d'une porte qui vient de s'ouvrir, j'ai vu se glisser la tête d'un type du Figaro, Richebourg, qui était secrétaire de l'administration quand j'étais chroniqueur, et qui, une fois ses chiffres alignés, bâtissait des plans de romans qu'il comptait bien vendre un jour, 3 sous la ligne. Il est envoyé par Villemessant pour demander que l'on veuille bien revenir sur l'arrêté de suspension dont est frappé le journal. Il invoque la liberté de la presse et fait appel à ma clémence.
Oh, « Je n'ai pas tant de pouvoir que ça, mon garçon. »
La force anonyme qui s'est emparée de Paris et qui rédige les proclamations et les décrets n'obéit pas à M. Vintras, journaliste et partisan du laisser-dire à outrance. Certes, je suis d'avis que même dans le brouhaha du canon et en pleine saison d'émeute, on devrait permettre aux mouches d'imprimerie de courir à leur guise sur le papier. Et je voudrais que le Figaro, qui longtemps me laissa libre, le fût aussi. Mais le maître de lavoir s'est levé.
« Libre, le Figaro ?
Allons donc, il n'a fait que blaguer et salir les socialistes, les républicains, alors qu'il ne pouvait pas se défendre. Il a toujours été pour les mouchards et les sabreurs, pour l'arrestation et l'écrasement de ceux qui viennent de faire la révolution. Le Bellevillois s'anime et s'emporte. « Tenez, je me rappelle un jour où Magnard écrivit que pour avoir la tranquillité, il faudrait choisir 50 ouvriers ou bohèmes parmi les agitateurs et les envoyer à Cayenne en convoi de galériens. Mais aujourd'hui, si je pensais comme ça, si j'étais un gueux aussi, c'est Villemessant, lui, vous, toute la bande, que je ferais coller à Mazas. » Vous demandiez qu'on empoignât les nôtres et qu'on assassinât nos journaux. On n'exécute que la moitié de votre programme. Et vous réclamez. Fichez-moi le camp et plus vite que ça, d'autres seraient peut-être moins généreux. Filez. C'est prudent. Le Figarotier a disparu. J'ai essayé de défendre ma thèse. Toi, Vintras, motus là-dessus. Ces fédérés qui t'entendent vont te suspecter et s'indigner. Le journal qui les a traités de viande à bagne aurait le droit de reparaître pour les injurier de nouveau? Y penses-tu? Mais un sergent et une compagnie, sans nous demander d'ordre et bousculant nos résistances, iraient sauter sur les rédacteurs et les fusilleraient d'Autor et d'Achard. Aimes-tu mieux ça? Il s'exaltait, et autour de lui on s'exaltait aussi. La sentinelle dont on voyait par la fenêtre luire la baïonnette s'était arrêtée pour écouter. Et quand le ministre eut fini, je vis l'arme bouger et se profiler en noir sur le mur inondé de soleil. L'homme muet faisait le geste de viser et d'abattre ceux qui parleraient de délier la langue aux insulteurs des pauvres. Et à l'instruction publique, sais-tu qui est là? Eh oui, le grand Rouillé. Rouillé est un fort gaillard de 40 ans à charpente vigoureuse et dont le visage est comme barbouillé de lit. Il se balance en marchant, porte des pantalons à la hussarde, son chapeau sur l'oreille et le pif en l'air. Il semble vouloir faire avec ses moulinets de bras et de jambes de la place au peuple qui vient derrière lui. On cherche dans sa main la canne du compagnon du devoir ou celle du tambour-major qu'il fera voltiger au-dessus d'un bataillon d'irréguliers. Il est cordonnier et révolutionnaire. Je chausse les gens et je déchausse les pavés. Il n'est guère plus fort en orthographe que son collègue de l'intérieur. Mais il en sait plus long, en histoire et en économie sociale, ce savetier. Que l'en savent tous les diplômés réunis qui ont avant lui pris le portefeuille, dont il a avant-hier tâté le ventre avec une moue d'homme qui se connaît plus en peau de vache qu'en marocain. Tandis qu'il cire son fil ou promène son tranchet dans le dos de chèvre, il suit aussi le fil des grandes idées et découpe une république à lui dans les républiques des penseurs. Et à la tribune, il sait faire reluire et cambrer sa phrase, comme l'empeigne d'un soulier, affilant sa blague en museau de bottine ou enfonçant ses arguments comme des clous à travers des talons de renfort. Dans son sac d'orateur, il a de la fantaisie et du solide. De même qu'il porte, dans sa toilette de serge, des mules de marquise et des socs de maçon. Tribun de champ de vin, curieux avec sa gouaillerie et ses colères, maniant de la contradiction, éloquent devant le zing et au club, toujours prêt à s'arroser la dalle, défendant toutes les libertés, celles de la soulaison comme les autres. Il y a deux questions. Primo, l'intérêt du capital. Il ne fait que deux syllabes du mot. Il avale lit avec la joie d'un homme qui mange le nez à son adversaire. Secondo, l'autonomie. Vous devez connaître ça, Vintras, vous qui avez fait vos classes. Ça vient du grec, à ce qu'ils disent les bacheliers. Ils savent d'où ça vient, mais ils savent pas où ça mène. Et de rire en sifflant son verre. Expliquez-moi un peu ce que c'est que l'autonomie. Pour voir. Fait-il, après s'être essuyé la barbe. Tous d'attendre la réponse. Au milieu du silence, il répète « Moi, je suis pour l'autonomie quelconque,
des quartiers, des rues, des maisons. Et des caves. Oh, ça !
Je suis curieux de le voir en fonction et prends le chemin de la rue Saint-Dominique.
« Vous demandez, monsieur le grand maître, me dit un huissier à chaîne d'argent qui me voit errant à travers les couloirs. »«
Le grand maître ? Mais est-ce qu'il se moque de moi ?» Néanmoins, je m'incline avec des airs de personnage et il me précède dans l'escalier. Une odeur de tabac, des cris.
« Quand je vous dis que je ne fais jamais de partie à quatre, alors je serai le galérien d'un monsieur dont je deviendrai le solidaire. Non, non, chacun pour soi, l'autonomie !»
Bruit de carambolage.
« Votre partenaire l'aurait fait, celui-là. »«
Oui,
et je lui aurais dû de la reconnaissance, du sentiment. Alors, j'aime mieux être autonome, mon bonhomme. »
Et puis, où serait l'intérêt ? L'intérêt du capital, ai-je fait en entrant ? On m'a tapé sur le ventre et on a rempli de rhum les petits verres.
Vous devez l'aimer, celui-là, car il sent rudement la semelle. Vous préféreriez têter votre écritoire, hein, buveur d'encre. Et qu'est-ce que vous venez faire ? Nous fiche à la porte, peut-être ?
Il a lampé une autre lichée et a dit « Je m'en bats l'œil ». Ça n'en aura pas moins été un niaf qui sera entré ici le premier comme une sorbonio
et que toute la valtaille de bureau ou d'office aura salué. Nous aurons introduit le cuir dans le conservatoire de la langue française et flanqué un coup de pied au derrière de la tradition.
Mais dites-moi donc, Roulier, qui vous a donné votre délégation ?
Oh, ça, mais vous croyez donc que je reçois des ordres ? Et que je m'enrégimente. J'avais des chaussures à rendre dans le quartier, c'est en voyant l'enseigne que l'idée m'a pris de monter. Le fauteuil est vide, je m'y suis assis, et j'y suis encore. Et là-bas, l'homme à la chaîne. Ça vous contrarierait-il d'aller nous chercher de la charcuterie ?
Un pied pour moi et de la hure, pour Teuillère.
« Nous mangerons ici, allons, Vintras, vous allez bouffer avec nous. Mettez votre quart. »
Il a tendu un képi pour faire la quête du déjeuner.
« C'est que nous avons épuisé les 4 sous donnés par le comité, 5 francs par tête. Maintenant, faut y aller de sa monnaie. »
On a bouloté dans le cabinet du ministre, et là, comme on était 5 ou 6 et qu'on avait arrosé le cochon, on a discuté chaudement les événements. Réussira-t-on ? Ne réussira-t-on pas ?
Et qu'importe, a grogné Rouillé. On est en révolution, on y reste, jusqu'à ce que ça change. Il s'agit seulement d'avoir le temps de montrer ce qu'on voulait, si on ne peut pas faire ce qu'on veut.
Sauf des mouchards et des gendarmes, on ne voit plus par les chemins. Que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paris suinte la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mode est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui mais ça branle dans le manche les mauvais jours. Finiront égards à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui mais ça branle dans le manche les mauvais jours. Finiront égards à la gauche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, aux MacMahon, aux Dupanloup. Il va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain, en réjouissance, et Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence, et le bagne se peuplera. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Le peuple au collier de misère sera-t-il donc doux? Toujours rivé, jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous croira-t-elle un vil bétail? À quand enfin la République de la justice et du travail? Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Dernier extrait de L'Insurgé, de Jules Vallès. Oh ! La première impression a été terrible ce matin quand, descendant vers la Croix-Rouge pour examiner où en étaient les combattants, j'ai vu des femmes fuir en portant leur harde dans un mouchoir et tirant leur mioche par la main.
On met le feu partout !
Ces femmes crient ou pleurent. Il y a aussi quelques isolés qui filent en courant et me crachant des malédictions. J'ai voulu tendre comme une chaîne ma ceinture rouge en travers de la panique. Mais on n'arrête pas les affolés. Pas plus rue de Buchy que porte de Versailles. Une crémière qui m'a fait crédit dans l'étendure de quelque 4 de riz et 3 de chocolat s'accroche à moi en poussant des hurlements de désespoir.
Vous n'allez pas laisser flamber le quartier. Vous êtes un honnête homme. Vous vous jetterez avec un bataillon, s'il le faut, sur les pétroleurs.
J'ai un instant été enveloppé par elle et d'autres, par des vieillards et des enfants, un groupe de 20 éplorés se tordant les bras et demandant où fallait-il qu'ils aillent, qu'on disait que tout allait périr. J'ai pu m'échapper à la fin. J'enfile le premier passage et je cache mon écharpe. Je sais sur mon chemin rue Casimir de la Vigne, un cabinet de lecture où je suis allé travailler et lire les journaux pendant 10 ans. On me recevra là et j'aurai 2 minutes 5, le temps de juger dans ma conscience l'incendie. J'ai cogné.
Entrez !
Je voulais être en tête à tête avec moi un moment à peine, si je le puis. Les gens qui sont là me supplient d'abandonner la partie. C'est l'abattage sans merci, peut-être le supplice affreux si vous persistez. Mais je le sais par Dieu bien. Songez à votre mère que votre mort tuera. Ah, les gueux, ils ont trouvé le joint. Et voilà que, comme un lâche, j'oublie la rue en feu, mon rôle et mon devoir. Cœur et cervelle, tout cela s'emplit des souvenirs du pays, et je vois, comme si elle venait d'entrer là, une femme en robe de veuve, en bonnet de tulle blanc, ses grands yeux noirs me fixent comme ceux d'une folle, et ses mains sèches et jaunies se lèvent avec un geste d'indicible douleur. Une décharge. Deux ou trois fédérés passent devant la vitre en courant et lâchent leur chasse-peau qui tombe sur le pavé. Regardez, ils s'enfuient. Ils s'enfuient, mais moi, je n'ai pas le droit de m'enfuir. Laissez-moi, je vous prie. J'ai besoin de penser tout seul. C'est tout pensé. Je reste avec ceux qui fusillent et qui seront fusillés. Que disaient-elles donc, ces éperdus ? Que tout allait périr. On a bien livré deux ou trois bâtisses au pétrole, et après ? Voyons, au collège, tous les livres traitant de Rome glorieuse ou de Sparte invincible sont pleins d'incendies, il me semble. D'incendies salués comme des aurores par les généraux triomphants ou allumés par des assiégés qui se chargeaient de saluer l'histoire. Mes dernières narrations étaient en l'honneur des résistances héroïques, de Numance en ruine, de Carthage en cendres, de Saragosse en flammes. Et le capitaine Fayard, qui avait été décoré dans la campagne de Russie, levait son chapeau chaque fois qu'il parlait du Kremlin que ces matins de Russes avaient allumé comme un punch des crânes, des kaiserliks, disait-il, en tordant sa moustache. Et le Palatinat saccagé et rôti, et 100 coins du monde brûlés au nom des rois ou des républiques, au nom des dieux des juifs ou des dieux des chrétiens. Et les grottes de Zatcha. Pélissier n'a-t-il pas des lambeaux de peau grillée collés aux talons de ses bottes, le Pélissier de Malakoff ? Nous n'avons pas encore, que je sache, enfourné les Versaillais dans une cave pour les y cuire tout vivants. Ah ! Je ne me suis pas rendu. Je ne suis pas devenu incendiaire sans avoir embrassé du regard tout le passé, sans avoir des ancêtres. Nous avons pioché cela à deux, La Rochette et moi, qui avons fait nos classes, puis à quatre, à dix, tous ont voté pour la flambée en masse. L'un d'eux écumait de colère. Et ce sont des pauvresses qui ont demandé grâce pour leurs quatre meubles, quand c'est pour les pauvres qu'on se bat. Quand des centaines d'artilleurs ont eu, non pas leur chemise, mais leur poitrail roussi par le feu du canon ennemi. Et sacrebleu, moi qui parle, j'étais riche avant d'entrer dans la politique sociale, il y a 10 ans. Est-ce que je n'ai pas jeté tout ça dans la fournaise ? Et aujourd'hui, parce qu'un peu de bois et quelques briques sont atteints par la stratégie des désespérés, ceux pour qui l'on s'est ruiné et pour qui l'on va mourir vont-ils nous jeter leur paquet de frusques à travers les jambes ? Il a eu comme un rire fou. Ah, je comprends la fureur des bourgeois, a-t-il repris, en se tournant du côté d'où partait la canonnade régulière. Dans l'éclair de la torche, ils viennent de voir réduire l'arme invincible, l'outil qu'on ne peut casser et que les révoltés se passeront de main en main désormais sur le chemin des guerres civiles. Qu'est-ce que ceci après cela ? A-t-il conclu en repoussant son fusil et en nous montrant une fumée sanglante qui coiffait tout un quartier du bonnet rouge. Vous disiez donc, lieutenant, qu'il s'agit de brûler tout un morceau de la rue Vavin. Oui, deux maisons, dont le génie de Versailles a percé les murs et par où les lignards nous tomberont dessus à l'improviste. Vous savez bien, les deux maisons du coin, dans celle de droite, au rez-de-chaussée, il y a une boulangerie. Drôle de chance. C'est contre le cadavre d'un pétrisseur de miches que je me suis heurté tout d'abord. C'est maintenant un monceau de farine que je vais faire exécuter. À feu et à sang, le pays du pain. Il va griller plus de blé moulu qu'il n'en fallait pour me nourrir pendant toutes mes années de famine.
Allons, mettez votre nom là, Vintras.
Le voilà. Et flambez une bicoque en plus s'il le faut. Je donne un bond en blanc. Hé, nous le savions bien que vous ne renauderiez pas. En riant, un fédéré a tiré de sa poche un vieux numéro du Cri du Peuple et mis le doigt sur une ligne. « Si Monsieur Thiers est chimiste, il comprendra. »«
Hein, vous y aviez pensé déjà ?»«
Non, et ce n'est pas moi qui ai écrit cette phrase si chaude. Je l'ai lue un matin dans l'article d'un collabo. Je l'ai trouvée raide, mais je n'allais pas faire un erratum sûr. » Et les journaux de Versailles n'ont pas manqué de dire qu'on reconnaissait bien ma griffe et mes instincts de bandit.
« Oui, déclare Totol, nous voulons faire sauter le Panthéon. »
Totol est un chef de bataillon qui a une influence sans borne sur ses compagnies, quoiqu'il soit gavrochien au possible. Mais il a fait des pieds de nez et dit zut aux Allemands avec tant de crânerie pendant le siège. Il a été si rigolo et si héroïque qu'on l'a élu à l'unanimité. Son idée a été accueillie par des hurrahs d'enthousiasme.
« Ce n'est pas vous qui défendrez le monument, m'a dit Totol. Les monuments pour Vintras, oh là là! C'est lui qui s'en fiche des temples, de la gloire et des boîtes à grands hommes. Pas vrai, citoyen ?
« Allons, voyons, à faire écarter tout ce monde-là » J'ai eu une peine terrible à retenir Totol et à lui expliquer que, quoique n'aimant pas les monuments, je ne demandais pas qu'on se servît d'eux pour tuer la moitié de Paris. Mais ils sont têtus en diable, et malgré tout ce que je puis leur raconter, la mort du Panthéon est résolue.
« Au mur, le Panthéon !»
Et pendant qu'on y est, au mur aussi, Saint-Étienne-du-Mont et la bibliothèque Sainte-Geneviève. Ça ne coûtera pas plus. Nous avons dû nous mettre à 4 ou 5, et des gros bonnets, le maire en tête, quelques commandants sages et un noyau de fédérés plus rassis pour empêcher ces cerveaux brûlés de se jeter sur le Panthéon comme sur un réac. On lui mettait déjà la ficelle aux pattes, souffrait de salpêtre et baigné de pétrole.
Mais en croyant terrifier les ruraux, vous allez terrifier les nôtres. C'est alors que les commères vous traiteront de brigands et que les autres quartiers reculeront jusqu'aux Prussiens, peut-être jusqu'à Versailles.
Il a fallu leur rabâcher ça et les prendre par le bouton de leur tunique, les chapitrer une heure. Il a fallu aussi trouver des raisons contre un petit vieux qui s'était gratté le crâne avec persistance pendant la discussion, et qui a fini par dire, d'une voix très douce, « En vérité, citoyen, il me semble qu'il vaudrait mieux, pour l'honneur de la commune, ne pas nous retirer pendant l'explosion. Ce n'est une bonne affaire que si nous restons là, et si nous sautons en même temps que les soldats. Je ne suis pas orateur, citoyen, mais j'ai ma petite jugeote. Pardon de ma timidité, je n'ai jamais parlé en public. Mais pour la première fois que je l'ose, je crois que je fais une excellente proposition. Seulement pressons-nous. Si nous bavardons longtemps encore, nous ne sauterons jamais, jamais » a-t-il conclu avec un énorme soupir. C'est lui qui a sauvé le condamné. On a ri de sa crainte de ne pas s'écrabouiller contre le ciel, et on n'en a plus reparlé. Hôtel des grands hommes. Je suis là depuis minuit. Nous sommes nombreux. Il y a presque tous les chefs du 5e et du 12e qui n'avaient pas un commandement militaire. On taille un jambonneau et une bavette.
Chaudet, tu sais ? a fait mon voisin de gauche avec un geste qui explique tout. Je n'ai encore jamais été mêlé à aucune tuerie, c'est de la veine. Mais quelques autres étaient du poste de Pélagie et racontent l'exécution. Comment est-il mort ? Oh, pas mal. Et les gendarmes ? Pas bien. Les soupeurs causent de cela comme d'une pièce dont ils auraient été spectateurs et où ils n'auraient pas eu de rôle. Au matin, quand le feu reprendra, il sera bien temps d'aller à son poste en s'étirant et en bâillant. Puisqu'on est sûr de la défaite, on peut bien boire le coup de l'étrier avant de recevoir le coup du lapin.
Voilà, nous avons donc terminé ces extraits de l'œuvre de Jules Vallès, L'Insurgé, qui ont suivi donc les extraits de la débâcle de Émile Zola. Tout cela pour se rappeler de cette commune d'il y a 150 ans. Nous passerons à une autre lecture la semaine prochaine. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.